Bonjour à tous, il est 11h ici à Paris, 5h à Washington.
Karine Bellicha.
À la une, le chef de la diplomatie américaine est à Panama City alors que Donald Trump veut reconquérir le canal de Panama et qu'il vient de signer un décret augmentant les droits de douane de ses voisins. Le nouvel homme fort de Damas élu à Riyad, première visite à l'étranger d'Ahmad al-Shara. Alors que la Syrie peine pour le moment à trouver sa stabilité, l'ONG OSDH dénonce de nouvelles exactions. Enfin, la cérémonie des Grammys à Los Angeles s'annonce plus grave cette année. Le monde de la musique américaine est comme toute la ville de l'Ouest encore sous le choc des incendies. Côté paillettes, Beyoncé attend son sacre. Marco Rubio entame donc sa tournée en Amérique centrale par le Panama. Le nouveau chef de la diplomatie américaine entend bien porter les revendications de son président. Donald Trump veut que le canal de Panama redevienne une possession américaine. La voie navigable stratégique entre l'Atlantique et le Pacifique, elle a été construite par les États-Unis, mais transférée au Panama en 1999. Les autorités panaméennes ont déjà prévenu, il n'y a rien à négocier. La correspondance sur place de Grégoire Pourtier.
Pour sa première visite dans un pays étranger, Marco Rubio va-t-il se montrer aussi agressif que Donald Trump ? Le secrétaire d'État arrive au Panama en pleine crise diplomatique après les déclarations inattendues du président américain qui menace de récupérer le canal, quitte à employer la force. La députée indépendante Valkyria Chandler-Dorsey, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, est effarée par les revendications et les accusations de Donald Trump.
Nous savons que c'est un négociateur. Il a même pu se comporter de façon brutale envers certaines autres nations. Ce qu'il cherche probablement avec ses menaces, c'est à prendre le dessus avant d'entamer des discussions. Pour nous, le principal, c'est notre souveraineté sur le canal, qui est non négociable. Il appartient et continuera d'appartenir au Panama et aux Panaméens. Notre position est d'appeler à des discussions politiquement adultes en se basant sur les traités pour que soit respecté le droit international.
Les Panaméens insistent sur l'uniformisation des tarifs ajustés en fonction de la taille du bateau et de la valeur de sa marchandise. Même s'ils sont largement les principaux utilisateurs du canal, les États-Unis sont donc traités comme les autres pays sur le plan commercial. En revanche, ils bénéficient déjà d'avantages pour leur marine militaire et ont grand besoin de la collaboration du Panama sur la question migratoire. Grégoire Pourtier, Panama, RFI.
Le Mexique et le Canada ont déjà annoncé des mesures de rétorsion, la Chine aussi. Des réactions rapides à la décision de Donald Trump d'imposer des droits de douane à 25% à ses voisins et à 10% à Pékin. Il faut dire que le décret signé par le président américain est loin d'être une surprise. Il avait menacé ces pays depuis longtemps pour leur supposée inaction face au trafic de drogue. Des voisins aussi accusés de laxisme en matière d'immigration illégale. Israël confirme la reprise des négociations indirectes avec le Hamas, des pourparlers qui s'engagent dès demain sur la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu. Après un nouvel échange otages contre prisonniers hier, cette étape prévoit la libération des derniers otages israéliens. 76 sont toujours dans la bande de Gaza, 34 seraient morts et la fin définitive de la guerre à Gaza. En Cisjordanie occupée, Israël a une nouvelle fois mené une opération militaire dans le nord du territoire palestinien. Des frappes aériennes qui ont tué plusieurs personnes, dont un homme libéré en novembre 2023 dans le cadre du premier cessez-le-feu avec le Hamas, selon l'armée. Après avoir installé la transition, Damas et pris le titre de président par intérim, Ahmad al-Shara effectue sa première visite officielle à l'étranger. Il est à Riyad aujourd'hui. Le nouvel homme fort syrien compte sur les pays du Golfe et en particulier sur l'Arabie Saoudite pour financer la reconstruction du pays. En Syrie même, les nouvelles autorités promettent la construction d'un pays pacifié et inclusif, mais des exactions sont dénoncées par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Au moins 10 personnes sont mortes en détention dans les prisons de la province de Homs entre le 28 janvier et le 1er février, selon l'ONG basée à Londres. Des milliers de partisans présumés de l'ancien régime y ont été arrêtés. Les explications depuis Beyrouth de Paul Ralifé.
L'Observatoire syrien des droits de l'homme OSDH rapporte la mort sous la torture de plusieurs détenus arrêtés ces dernières semaines par les services de sécurité des nouvelles autorités en Syrie. L'ONG indique samedi qu'un homme de 23 ans, Loay Tayara, a été retrouvé mort 24 heures après son arrestation dans la ville de Homs. Il aurait été mortellement frappé à la tête. Le jeune homme a été arrêté car sa mère appartenait au parti Baas au pouvoir en Syrie pendant 60 ans et aujourd'hui dissous. L'OSDH a publié les noms de plusieurs autres personnes mortes sous la torture ces quatre derniers jours dans cette province centrale où les rafles contre des partisans présumés de l'ancien régime donnent lieu à des exactions et des exécutions extrajudiciaires. Le directeur de l'OSDH, Ramia Abdelrahman, évoque une situation chaotique à Homs. Il a exhorté le président de la transition en Syrie, Ahmad al-Shara, d'ordonner la libération de milliers de détenus qui n'ont pas du sang sur les mains, dont des officiers et des soldats de l'ancienne armée qui effectuaient leur service militaire obligatoire. Parmi les détenus figurent d'anciens militaires arrêtés après avoir remis leurs armes et régularisé leur situation, comme l'exigent les nouvelles autorités syriennes. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Au sujet de la guerre en RDC à présent, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont fermement condamné l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda dans l'est du pays. Un communiqué diffusé par le Canada qui préside le groupe des grandes puissances économiques. Il évoque un mépris flagrant de la souveraineté territoriale de la République démocratique du Congo. Plus tôt dans la semaine, l'ONU s'était inquiétée de l'avancée du M23 soutenue par le Rwanda au-delà de Goma vers le sud. Kivu et la ville de Bukavu. Et la guerre s'invite aussi dans le sport. Les autorités congolaises ont demandé à plusieurs clubs de foot européens de mettre fin à leur partenariat avec le Rwanda, dont trois clubs sont particulièrement dans la ligne de mire. À Kinshasa, Alexandra Branchon.
Trois clubs en partenariat avec le Rwanda et dont les maillots arborent la marque Visit Rwanda, sponsorisée par l'Office de tourisme rwandais. Arsenal, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Dans une lettre adressée au club en question, la ministre des Affaires étrangères congolaise interpelle les présidents de ces clubs et leur demande d'interroger la moralité de ces accords de sponsoring alors que le Rwanda mène une guerre dans l'est du Congo. La culpabilité du Rwanda dans ce conflit est devenue incontestable, écrit Thérèse Kayikwamba Wagner. Votre sponsor est directement responsable de cette misère, ajoute-t-elle. Il y a quelques jours, une pétition en ligne a été lancée en France par un supporter du PSG qui dénonce la responsabilité du Rwanda dans cette guerre à l'est du Congo et demande au président du club de ne pas renouveler son partenariat avec Kigali, qui doit prendre fin à l'issue de la saison en cours. Alexandra Banjon, Kinshasa, RFI.
Les Grammys vont-ils enfin sacrer Beyoncé? La chanteuse américaine n'a jamais remporté le gramophone du meilleur album de l'année ou celui du meilleur enregistrement, les deux trophées les plus prestigieux. Ce soir, la 67e édition des Grammy Awards, les récompenses annuelles américaines de la musique à Los Angeles, pourrait récompenser son album Country, succès populaire et critique, revue des artistes en compétition avec Olivier Roger.
Queen Bee est déjà l'artiste la plus récompensée de tous les temps, avec 32 gramophones dorés sur ses étagères, un record qu'elle pourrait améliorer cette année puisqu'elle est en lice dans 11 catégories, dont celle du meilleur album pour Cowboy Carter, hommage aux racines afro-américaines de la musique country. Mais Beyoncé n'est pas seule. Les artistes féminines sont en force cette année. Taylor Swift, Billie Eilish, Charlie XCX ou encore la révélation Sabrina Carpenter sont de sérieuses prétendantes. Côté R&B et rap, là aussi la concurrence est féroce. Kendrick Lamar, habitué des récompenses, se distingue avec 7 nominations, dont 5 pour le seul titre Not Like Us. La pyramide des âges côté rappeur est très large entre le vétéran Eminem, 52 ans, et la Benjamin Dushi, 26 ans. 94 Grammys seront remis cette nuit aux artistes du monde entier. Le Nigeria est assuré de repartir avec une récompense puisque dans la catégorie de la meilleure performance musicale africaine, les nommés sont tous originaires de ce pays, parfois en collaboration avec des Américains. Enfin, Justice, mais aussi le groupe de métal Gojira défendront les couleurs de la France.
Et c'est donc Gojira qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi.